VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, au micro Morgane Guiriec et Annette Burtson. Bienvenue à l'édition du jeudi 4 juin 2015. À la une ce matin.
Lutte contre Boko Haram, les pays de la région ont finalement trouvé un homme pour diriger la force d'intervention militaire régionale devant combattre le groupe islamiste nigérian.
En Centrafrique, de violents heurts à l'arme lourde entre les anti-balaka et la MINUSCA burundaise ont fortement perturbé les épreuves sportives du brevet des collèges hier au lycée Boganda à Bangui.
Reprise à Vienne des négociations sur le programme nucléaire iranien, l'objectif reste de parvenir à un accord définitif le 30 juin.
Comme tous les matins, la Minute Éco et les sports, mais d'abord le journal.
Lutte contre Boko Haram, les pays de la région ont donc finalement trouvé un homme pour diriger la force d'intervention militaire régionale devant combattre le groupe État islamiste, le groupe islamiste nigérian. Bagassi Koura, il s'agit d'un haut gradé nigérian.
L'armée nigériane a annoncé que le major général Tukur Yusufu Buratai a pris hier ses fonctions de chef de la force d'intervention conjointe multinationale à N'Djamena au Tchad. Forte de 8 700 militaires, policiers et civils, la force regroupe le Nigeria et ses voisins, le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Bénin. Les cinq pays se sont entendus au début de cette année pour intensifier leur coopération pour endiguer la menace régionale que constitue le groupe islamiste dont l'insurrection a déjà fait au moins 15 000 morts depuis 2009. La décision d'installer le quartier général de la nouvelle force à N'Djamena a été prise peu après la chute de la ville nigériane de Baga. La capitale tchadienne est par ailleurs le centre de commandement de l'opération anti-djihadiste Barkhane menée par la France au Sahel. La force régionale dont le principe a été adopté en mai l'année dernière et qui était censé être opérationnel en novembre, a été soutenu par l'Union africaine, le Royaume-Uni, les États-Unis et la France.
République démocratique du Congo, le général de brigade Muindo Akili Mundos a été relevé de ses fonctions. Le commandant de l'opération militaire Sokola 1 contre les rebelles ougandais ADF va être remplacé à la tête de l'opération par le général de brigade Marcel Bangou Machita. Le passage de témoin devra avoir lieu aujourd'hui, rapporte l'AFP.
Les leaders de la diplomatie européenne se sont entretenus mercredi avec le chef de la diplomatie libyenne à Bruxelles. L'Union européenne tente d'obtenir l'accord des autorités libyennes pour une opération militaire EU-NAVFOR Med contre le trafic de migrants en Méditerranée. L'ambassadeur de Libye aux Nations Unies a refusé mardi son consentement à une résolution de l'ONU destinée à soutenir l'opération.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, lutte contre le groupe État islamique en Irak. Une frappe a détruit l'un des plus importants sites de fabrication de voitures piégées du groupe islamiste. Le raid qui s'est produit à Ouidja a été mené par la coalition internationale dirigée par les États-Unis. Des responsables irakiens cités par l'AFP ont affirmé que le raid avait tué un nombre indéterminé de djihadistes, mais aussi des civils.
Et dans le même temps, en Syrie, le chef du front Al-Nusra, branche syrienne d'Al-Qaïda, estime illégitime le califat que veut instaurer le groupe État islamique. Sur la chaîne Al-Jazeera, Abu Mohamed Al-Jolani a affirmé que le califat ne se fonde pas sur la loi islamique. Les combattants de l'État islamique ne se sont pas conformés aux ordres de ne pas provoquer d'explosions sur les marchés ou de ne pas tuer de gens dans les mosquées.
En Arabie Saoudite, à Dammam, l'AFP indique que des barricades en béton sont montées à la hâte pour protéger la mosquée Al-Anoud, où les chiites craignent un nouvel attentat du groupe sunnite État islamique. Il faut dire que la communauté chiite minoritaire dans le royaume, à majorité sunnite, se concentre dans la province orientale. Le mois dernier, deux attaques y ont ensanglanté la prière du vendredi. Rappelons que l'État islamique avait menacé de chasser les chiites qu'il considère comme des hérétiques de la péninsule arabique.
Proche-Orient, les avions israéliens ont frappé des sites d'entraînement militaire du Hamas à Gaza tôt ce matin. Opération menée en réponse aux tirs de roquettes contre Israël un jour plus tôt. Aucune victime n'est signalée.
Sachez aussi que des affrontements entre juifs israéliens d'origine éthiopienne et policiers ont éclaté hier à Tel Aviv lors d'une manifestation non autorisée. D'après l'AFP, les Filacha étaient venus dénoncer ce qu'ils considèrent comme un racisme institutionnalisé dans l'État hébreu. Certains ont essayé de bloquer des rues, mais ont été repoussés.
Reprise aujourd'hui à Vienne des négociations sur le programme nucléaire iranien, le département d'État américain affirme que l'objectif reste de parvenir à un accord définitif le 30 juin. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Les négociateurs du groupe 5 plus 1, à savoir les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, entameront aujourd'hui des réunions avec la délégation iranienne conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a indiqué hier la porte-parole du département d'État, Mary Harf, que cite l'AFP. Absent à ces négociations suite à son grave accident de vélo dimanche dans les Alpes françaises, le secrétaire d'État américain John Kerry compte être présent à Vienne pour la conclusion de ces négociations. L'Iran et les puissances mondiales ont conclu un accord de principe le 2 avril à Lausanne en Suisse et s'attelleront à Vienne, et cela jusqu'au 30 juin, à l'élaboration du texte définitif. Parmi les divergences qui subsistent, la question de l'inspection des sites militaires iraniens, le rythme de levée des sanctions prises contre l'Iran et la réduction à 300 kg des stocks iraniens d'uranium faiblement enrichi, a indiqué la porte-parole du département d'État.
Ici aux États-Unis, Lincoln Chafee, ancien sénateur et gouverneur du Rhode Island, a annoncé qu'il se présentait à la présidentielle de 2016. Longtemps républicain, avant de passer dans le camp adverse, M. Chafee, 62 ans, est le quatrième démocrate à se lancer dans la course aux élections primaires de ce parti. Hillary Clinton reste largement favorite.
À Boston, dans le Massachusetts, l'islamiste présumé abattu mardi par la police voulait décapiter des policiers au nom du djihad. C'est ce que rapportent des documents judiciaires publiés mercredi. Un présumé complice a été arrêté hier à Boston, a aussi indiqué la police. Déjà surveillé par le FBI, il s'est approché mardi matin d'agents en brandissant un couteau. Refusant d'obtempérer à plusieurs injonctions de lâcher son poignard, il a été abattu.
À Hong Kong, des dizaines de milliers de personnes devaient descendre dans la rue aujourd'hui pour commémorer la répression du printemps de Pékin en 1989 sur la place Tiananmen et réclamer une véritable démocratie dans l'ancienne colonie britannique.
Nouvelle révélation qui entache un peu plus la réputation de la FIFA. L'Américain Chuck Blazer, ancien membre du comité exécutif de la FIFA, a reconnu que des pots de vin avaient été versés lors des processus d'attribution des Coupes du Monde de 1998 et 2010. Ces révélations de M. Blazer, rendues publiques mercredi par la justice américaine, datent de 2013. Alors qu'il avait été inculpé de racket et de corruption. Après l'Afrique du Sud pour le Mondial 2010, le Maroc est ainsi accusé d'avoir versé des pots de vin pour tenter d'obtenir l'organisation de la Coupe du Monde en 1998.
Et pendant ce temps, la démission prochaine de Sepp Blatter à la tête de la FIFA continue de susciter des réactions à travers le monde. À Washington, la nouvelle a été accueillie avec soulagement dans les milieux sportifs, mais aussi dans le monde politique.
Prenons le cas de la Maison-Blanche qui a salué la démission en disant qu'une nouvelle direction serait l'occasion de partir sur de nouvelles bases au sein de l'instance dirigeante du football mondial. L'AFP cite le porte-parole du président Barack Obama qui a déclaré que le changement à venir bientôt à la FIFA pourrait être l'occasion pour l'organisation d'essayer d'améliorer son image et de s'assurer que ses actes soient en cohérence avec sa mission. Sepp Blatter a surpris l'opinion mardi en annonçant qu'il a demandé au comité exécutif de la FIFA d'organiser un congrès électif extraordinaire dans les plus brefs délais afin de choisir son successeur. Malgré des appels pressants de plusieurs collaborateurs, tels la légende du football français Michel Platini, Sepp Blatter avait refusé de démissionner avant sa réélection pour un cinquième mandat. Mais pour des raisons non encore élucidées, il a fait un revirement quatre jours après et décidé de jeter l'éponge. Au moins 14 responsables de la FIFA et d'entreprises alliées ont été inculpés et 7 ont été arrêtés la semaine dernière à Zurich.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Félix Epassi Zembrou.
L'ONG britannique Global Witness a appelé mercredi la France à prendre des mesures rigoureuses contre les entreprises qui commercialisent sur son territoire du bois illégalement coupé dans les forêts de la République démocratique du Congo. Dans un nouveau rapport sur la RDC, Global Witness note que la France est le deuxième pays importateur de bois congolais après la Chine. L'ONG qualifie de vraiment choquante l'ampleur des illégalités commises au Congo. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, recommande aux pays de l'UE au mois un rééquilibrage de leurs finances publiques. C'est une injonction du comité de politique monétaire de la BCAO prise à Dakar à l'issue de sa deuxième réunion ordinaire de l'année 2015. Aux yeux du comité, ce rééquilibrage doit être en conformité avec les dispositions du pacte de convergence, de stabilité et de croissance adopté dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine en janvier 2015. Les dirigeants africains se réuniront du 2 au 7 novembre en sommet extraordinaire à Lomé pour adopter une charte contre la piraterie maritime. Au moins 205 attaques de navires ont été enregistrées dans le golfe de Guinée de 2005 à mai 2015. La zone côtière s'étendant du Sénégal à l'Angola est devenue, selon les experts, la nouvelle plaque tournante de la piraterie en Afrique, prenant le relais du golfe d'Aden sur la côte orientale de l'Afrique, où le phénomène, un temps spectaculaire, a quasiment disparu devant le déploiement d'une armada militaire internationale.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Félix. Plein feu sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonjour Nicolas.
Bonjour Morgane.
Coupe du monde des moins de 20 ans en Nouvelle-Zélande.
Oui, après un bon début de rencontre, le Sénégal a progressivement perdu le contrôle face à la Colombie qui a égalisé et a même manqué de pouvoir l'emporter en fin de rencontre. Score final un partout entre les deux équipes. Lors du dernier match, les Lionceaux de la Teranga doivent encore affronter le Qatar qui a été sèchement battu par le Portugal 4-0. Les Aiglons du Mali ont eux perdu 2-0 face à la Serbie. La victoire inaugurale face au Mexique a eu beau gonfler le moral des troupes avant ce choc du groupe D. Rien n'y fait, les hommes de Fonieri Diarra devront se reprendre au prochain match. Autre résultat, le Mexique 2-1 face à l'Uruguay.
A noter Nicolas que le Nigeria s'est imposé face à la Corée du Nord 4-0. Du nouveau dans le scandale de corruption à la FIFA.
Jérôme Valque, secrétaire général de la FIFA, a affirmé hier chez nos confrères de France Info qu'il n'avait aucun reproche à se faire alors que le New York Times l'avait accusé d'avoir transféré 10 millions de dollars sur des comptes gérés par l'ex-vice-président de la FIFA, Jacques Warner.
Les qualifications pour la CAN 2017, le Ghana publie sa liste.
Le sélectionneur israélien Avram Grant a publié une liste de 23 joueurs retenus pour ce premier match des qualificatifs, ce sera le 14 juin à Accra contre l'île Maurice. Asamoah Gyan, fer de lance et capitaine des Black Stars, effectue son retour après avoir manqué sur blessure les deux matchs amicaux contre le Sénégal et le Mali. André Ayou, autre cadre de la sélection ghanéenne, est forfait. Il se remet d'une blessure à la voûte plantaire.
Tennis, tournoi de Roland-Garros.
Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, a réussi l'impossible en devenant le deuxième joueur à battre Rafael Nadal à Roland-Garros en quart de finale, au terme d'un match qu'il a maîtrisé avec une aisance stupéfiante en 3-7, 7-5, 6-3, 6-1. Au programme ce jeudi, les demi-finales dames, Anna Ivanovic contre Lucie Safarova et la numéro 1 mondiale Serena Williams contre Timea Bachinski.
Et la grande finale NBA, c'est la nuit prochaine.
Pour la première fois de son histoire, Cleveland peut inscrire son nom au palmarès NBA, mais Golden State, qui a attendu 40 ans pour disputer une nouvelle finale, a une autre idée derrière la tête.
Voilà pour les sports, merci Nicolas.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. La FIFA pourra-t-elle redorer son blason après l'annonce choc du départ de Sepp Blatter de la présidence? Son successeur pourra-t-il faire le grand nettoyage après les graves accusations de corruption? Comment vous, en Afrique, réagissez à cette démission surprise de Blatter qui a eu le soutien inébranlable du continent? Un mondial alternatif hors FIFA verra-t-il le jour, même après ces développements inattendus? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec, en votre compagnie pour la deuxième partie de notre émission. En Centrafrique, de violents heurts à l'arme lourde entre les anti-Balaka et la MINUSCA burundaise ont fortement perturbé les épreuves sportives du brevet des collèges hier matin au lycée Boganda à Bangui, dans le 4e arrondissement. Plusieurs dizaines d'élèves évanouis sous le choc ont été acheminés dans les différents hôpitaux de la capitale. À l'origine de ces affrontements, les troupes burundaises de la MINUSCA ont tenté de récupérer un véhicule volé par les anti-Balaka pour le rendre à son propriétaire. Signalons que dimanche, les anti-Balaka ont menacé de semer la terreur à Boirab, dans le 4e arrondissement, suite à la mort d'un des leurs tué par les forces armées centrafricaines. Le point avec l'inspecteur d'académie Josias Renaba, joint par Félix Yepassi Zembro.
Oui, en fait, il y avait les élèves des lycées Boganda, Miskid, lycée Marie-Jeanne Caron et le lycée d'application de l'ENEF qui étaient en train de composer les épreuves physiques et sportives du brevet des collèges. Il y a eu affrontement entre les anti-Balaka, d'après ce que nous avons entendu, avec des éléments de la MINUSCA, je crois, burundaise. Et bon, comme les tirs étaient nourris, les enfants ont eu non pas des blessures par la balle, mais ils ont été sous le choc. Donc beaucoup sont évanouis, d'autres ont eu des convulsions. On les a tous amenés à l'hôpital communautaire d'abord, et certains ont été amenés à l'hôpital général, précisément là où il y a le Médecins Sans Frontières. Donc ça faisait à peu près 75 élèves au niveau de l'hôpital communautaire et 9 au niveau de l'hôpital général. Donc le cabinet que j'ai informé, tout comme le ministre, se sont rendus sur place pour assister les élèves.
Les événements se sont déroulés dans l'enceinte même du lycée?
Non, à proximité. Nous ne connaissons pas exactement les causes, mais il y a eu effectivement des échanges de tirs entre les éléments de la MINUSCA et un groupe d'éléments incontrôlés, disons, des anti-Balaka, d'après la rumeur, parce qu'on n'a pas de précision.
Josias Renaba, inspecteur d'académie de la République centrafricaine.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Les changements à la tête du Nigeria pourraient relancer les efforts des États-Unis pour combattre Boko Haram. Selon les analystes, l'investiture du président Muhammadu Buhari donne aux deux pays une chance de repartir sur de nouvelles bases après des relations plutôt tendues sous son prédécesseur Goodluck Jonathan. Les précisions d'Idrissa Seydoudia.
Dans une vidéo publiée en ligne cette semaine, on a vu des combattants de Boko Haram arborant apparemment le logo de l'État islamique d'Afrique de l'Ouest. Rien que des mensonges, affirme ce militant qui dément que les pays combattant son groupe aient eu de gros succès dans leur tentative de neutraliser Boko Haram. Cette vidéo a été publiée quelques jours seulement après l'investiture du président Muhammadu Buhari qui s'est juré de faire de la lutte contre le groupe islamiste nigérian sa priorité des priorités. Et l'ancien général a discuté de cette question avec le secrétaire d'État américain John Kerry, qui était présent à sa prestation de serment. Pour J. Peter Pham de l'Atlantic Council, il est important que Washington ne permette pas le pourrissement de la situation qui prévalait sous le précédent régime nigérian. Je m'attends à ce que les États-Unis agissent rapidement, envoient des conseillers pour aider le Nigeria, par exemple dans les domaines du renseignement et de la logistique. Le politologue américain rappelle que le Nigeria n'est pas un pays pauvre malgré ses problèmes économiques actuels. Il ne veut pas de charité, mais aimerait avoir la possibilité d'acheter lui-même assez d'équipements et autres pour relever ses défis. Pour sa part, l'analyste Mohamed Rahim s'est exprimé sur la question au programme Africa 54 de la VOA. Monsieur Rahim insiste sur l'assistance technique et explique que les États-Unis et les autres puissances mondiales devraient se concentrer sur l'aide aux communautés frappées de plein fouet par les attaques et enlèvements de Boko Haram. Au département d'État américain, un haut responsable a déclaré lors d'un briefing que les États-Unis espèrent faire plus pour aider le Nigeria à combattre Boko Haram, y compris l'entraînement d'un bataillon cette année.
Au Nigeria toujours, Amnesty International demande à la Cour pénale internationale de lancer des poursuites contre des hauts gradés de l'armée nigériane impliqués dans la lutte contre Boko Haram. L'Organisation de défense des droits humains estime, dans un rapport publié hier, avoir réuni suffisamment de preuves de crimes de guerre commis par l'armée. Au micro de Bagassikoura, Stephen Cockburn, directeur adjoint Afrique de l'Ouest et du Centre Amnesty International.
Ce que nous avons découvert, c'est des évidences claires et nettes des crimes de guerre massifs commis par les forces de sécurité nigériennes dans le combat contre Boko Haram. Les chiffres principaux qui sont accablants, nous avons trouvé qu'il y a au moins 7000 personnes qui sont mortes de faim, de soif, d'asphyxie, de maladies ou même de la torture dans les prisons et les lieux de détention. Plus que 1200 personnes qui ont été exécutées en toute illégalité par l'armée et leurs milices, y compris dans une journée, il y avait plus de 640 personnes, des hommes et des garçons tués après avoir fui une prison suite à une attaque de Boko Haram. Il y avait plus de 20 000 personnes qui ont été arrêtées et détenues arbitrairement.
Est-ce que vous mettez en cause les hauts commandements de l'armée à Abuja ou peut-être à Lagos dans ces crimes, ou est-ce que ce sont des hommes de terrain seulement qui auraient commis ces actes-là?
Bon, nous avons nommé 9 hauts responsables. C'est vraiment les chefs de l'armée, c'est vraiment les personnes au plus haut niveau qui devaient faire l'objet des enquêtes sur leurs responsabilités, soit individuelles ou soit hiérarchiques. Donc, nous disons qu'il y a assez d'évidence pour faire les enquêtes sur eux, mais nous disons aussi qu'il faut faire les enquêtes sur un nombre plus large de personnes.
Et là, vous demandez au nouveau président de mener des enquêtes pour établir les responsabilités et peut-être prendre des sanctions.
Exactement. Nous avons une opportunité en or maintenant avec l'élection et l'inauguration du président Buhari. Il a déjà dit qu'il veut améliorer la situation des droits humains dans le pays. Donc maintenant, il faut faire preuve de cet engagement. Évidemment, le premier pas dans la résolution d'un problème, c'est vraiment d'admettre qu'il y a un problème. Donc maintenant, c'est l'opportunité d'effectuer un changement d'approche, reconnaître la gravité du problème et prendre des mesures nécessaires pour mettre fin à ces violations et s'assurer que des comptes soient rendus. Pour nous, ça veut dire qu'il faut ouvrir des enquêtes indépendantes et impartiales, y compris sur ceux que nous avons nommés dans le rapport, et mettre fin aux arrestations de masse, mettre fin à la torture, aux exécutions extrajudiciaires et aux conditions de détention inhumaines.
Stephen Cockburn d'Amnesty International, joint à Dakar au Sénégal.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Et nous partons au Mali. La Banque islamique pour le développement a accordé un prêt de plus d'un milliard de francs CFA, des fonds qui devront permettre de stocker une quantité importante de riz pour faire face à la période de soudure et offrir aux producteurs un prix rémunérateur. Le stockage de cette quantité de riz est confié à l'Office des produits agricoles du Mali, OPAM. Reportage de Kassim Traoré.
C'est sur la base des textes régissant les relations entre le Mali et la Banque islamique pour le développement BID que plus d'un milliard de francs CFA a été accordé au Mali sous forme de prêt. En plus, il a fallu un accord de non-objection des marchés publics pour que l'OPAM exécute ce travail. Salif Diarra, président directeur général de l'OPAM.
L'accord prévoit que des négociations se fassent entre l'OPAM et les fournisseurs. Il y a des dispositions concernant les taxes que les opérateurs normalement devraient payer et qui se trouvent être exonérés de toutes ces taxes-là. Donc nous avons traité cette matière dans le cadre strictement de cet accord. Mais nous sommes allés plus loin en écrivant à la DGMP un avis de non-objection par rapport à la gestion de ce projet dans le cadre de l'accord.
L'OPAM veut surtout stocker une quantité importante de riz afin de faire face à la période de soudure.
C'est pour permettre d'abord de donner un prix rémunérateur aux producteurs, parce que quand vous prenez les données de l'OMA pour la période à laquelle on a commencé les achats, les prix étaient en train de plonger. Mais après signature contrat, les prix ont commencé à monter. Ça, c'était un objectif recherché. L'autre objectif, c'est que l'OPAM est un agent de stockage. Donc, l'OPAM achète. En achetant, nous donnons un prix rémunérateur aux producteurs et nous avons l'obligation de vendre ce riz à une période où le prix serait en mouvement ascendant.
En plus de la période de soudure qui est difficile à gérer, il s'agit de contrecarrer la mévente du riz.
Les producteurs avaient quelques problèmes pour écouler leur production et ils ont fait des interventions au niveau des plus hautes autorités qui ont vu la nécessité de leur apporter un appui. Le ministre commissaire lui-même a pu obtenir de la BID le financement d'un certain nombre de projets de résilience.
À coup sûr, le prêt accordé au Mali par la BID doit mettre un terme à la sortie abusive des riz de notre pays, tout en empêchant les prix borchants pour le bonheur des paysans. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Maroc, un concert de Jennifer Lopez a suscité des appels à la démission de Mustapha Ralfi, ministre de la Communication. Des membres du Parti islamiste de la justice et du développement ont été choqués par la performance de la chanteuse du festival Mawazine qui a été diffusée à la télévision nationale. Plus de 160 000 personnes ont assisté au concert. Alors pourquoi une telle levée de bouclier ? Idriss Fall a posé la question à Mustapha Tossa, journaliste marocain à Paris.
Dans le cadre du festival Mawazine, qui est un festival international auquel participent de nombreuses stars de la chanson mondiale, Jennifer Lopez avait un spectacle à Rabat. Les images de ce spectacle transmises par la télévision marocaine ont été jugées comme dérangeant, entre guillemets, la morale publique et la morale sociale du Maroc. Un certain nombre de personnes ont été choquées. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement avait demandé à ce qu'il y ait une enquête. Pourquoi de telles images jugées permissives avec des positions et des postures lascives et provocantes. Et donc il y a eu tout un scandale dans l'opinion.
Pourquoi l'avoir invitée ? Parce que Jennifer Lopez, tout le monde sait qu'elle se produit comme ça.
La question est d'autant plus pertinente que le festival Mawazine avait déjà programmé dans d'autres éditions des chanteuses entre guillemets aussi chaudes, aussi hautes dans leurs performances. On se rappelle aussi quand Shakira était à Rabat, il y avait d'autres stars et du show américain qui étaient déjà venus à Mawazine et ça n'avait pas provoqué un tel scandale entre guillemets. Alors pourquoi cette fois-ci ? Alors peut-être que ça intervient dans un contexte de débat extrêmement sensible au Maroc où il y a un parti islamiste au gouvernement mais qui n'arrive pas à trouver ses marques.
Et le Mawazine, je crois que c'est le roi qui a le dernier mot sur le choix de ceux qui viennent, non ?
Non, c'est pas le roi. Le roi n'y est pour rien dans le casting de ses stars. C'est une association culturelle dirigée certes par un proche du roi qui s'appelle Monsieur Majidi, mais le casting, il est international. Le casting, personne ne peut remettre ou l'a remis en cause le côté artistique de la chose. Toute la question est de savoir pourquoi des images de Jennifer Lopez passées à la télévision ont provoqué un tel tollé, un tel scandale aujourd'hui, alors que l'année dernière et l'année d'avant, des images aussi provocantes, aussi sensuelles, entre guillemets, sont passées presque inaperçues. Ce qu'il faut chercher, c'est l'explication dans le cadre politique, dans le cadre social, et c'est un rapport aussi à voir avec le fait qu'un parti islamiste, le PJD qui est au pouvoir et dont le chef et le premier ministre du gouvernement arrive à une certaine séquence où il ne peut plus arrêter les contradictions et arrêter les antagonismes et d'où ces prises de position très marquées au sein de son gouvernement.
Mustapha Tossa, journaliste marocain, joint à Paris. La mise en onde est assurée par Anne Albertson, Morgan Guerriac à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée.
Au cœur de l'info sur VOA Afrique.